Toute cette semaine, notre magazine de la rédaction se plonge dans la Seconde Guerre mondiale à travers la publication 108 de la revue culturelle Intervalle.
Fortification des brigades frontières 2 et 3 dans le Jura et dans le Jura bernois, c'est le titre de cet opus. Il décrit tout le processus de défense du territoire de la région durant le siècle dernier et en particulier durant les années 30 et 40. C'est le vice-président de la revue culturelle Intervalle, Jean-Marie Hotz, qui a eu l'idée de cet ouvrage. Il nous explique tout d'abord ce qu'étaient les brigades frontières.
Ça fait partie de la nouvelle organisation, enfin nouvelle à l'époque. Ça date de 1938, sous la menace du nazisme et des velléités guerrières de Hitler. Le Conseil fédéral a décidé de réorganiser les troupes et de faire une sorte de ceinture tout autour de la Suisse. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas très clair d'où viendrait le danger. Les Français étaient aussi considérés comme un danger potentiel. Et ils ont donc réorganisé les troupes en 9 brigades qui sont réparties tout au long de la frontière, des brigades frontières, comme le nom l'indique. Et le centre était tenu par l'armée traditionnelle, si j'ose dire. Et donc les brigades frontières 2 et 3 étaient celles qui tenaient la partie Neuchâtel pour la brigade frontière 2. Mais la brigade frontière 2 venait jusqu'à Frainvier et Bienne. Et la brigade frontière 3 prenait toute la partie Jura-Bernois et un bout sur Soleure. Ensuite, c'était la 4 sur Bâle et puis ça continuait comme ça.
Quelles étaient leurs missions ?
Alors, leur mission était clairement de défendre, évidemment, le territoire suisse, d'empêcher, c'est le général Guisan qui a donné cette mission lors de son célèbre discours au Grütli, d'empêcher quiconque d'entrer sur le territoire suisse par quelque moyen que ce soit. Et on sait très bien, et on l'avait vécu avant avec la ligne Maginot, c'est pratiquement impossible avec les armées modernes d'avoir une ligne claire de défense et que personne ne passe. Donc c'est une défense du territoire avec comme première mission de retarder la pénétration de l'ennemi sur territoire suisse et de permettre aux troupes qui sont à l'intérieur du pays de s'organiser et de savoir s'ils viennent de Chafouz, s'ils viennent de Genève, s'ils viennent du Tessin et de pouvoir mobiliser les gens dans les bonnes régions.
Combien d'hommes composaient ces deux brigades ?
Alors il y avait en tout, alors pour ces deux brigades, je ne sais pas, il y avait 70 000 hommes mobilisables sur les brigades frontières, ce qui est beaucoup pour la Suisse, mais ce qui n'est en fait pas beaucoup au kilomètre. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans la région, ici, pour ces deux brigades, on avait environ 13 000 ouvrages. Alors un ouvrage n'est pas forcément un énorme fortin, etc., mais il y avait 13 000 ouvrages et contre-ouvrages dans la région.
À quoi ils peuvent ressembler, ces ouvrages ?
À ce que vous voyez quand vous vous promenez dans les forêts ou dans le Jura, les plus visibles ou les plus connus sont évidemment les Toblerones, ces tétrapodes en béton qui sont y compris dans les rivières. Personne ne comprend aujourd'hui pourquoi on a mis des tétrapodes dans la rivière, parce qu'il n'y avait aucun char d'assaut qui allait prendre le fond de la Birse pour attaquer la Suisse. Mais on a mis des tétrapodes là au fond, donc il en reste encore. Vous avez encore dans les routes ou certaines routes des trous, si vous observez, il y a comme des couvercles. Ça permettait de vous ouvrir le couvercle et vous enfiler des rails en profil H qui bloquaient un char d'assaut de l'époque, ne passait pas. Donc ça permettait de le bloquer, puis une fois qu'il était bloqué, d'y tirer dessus. Et puis après, c'est tous ces fortins, si on fait un petit peu attention, mais tout le monde en a déjà vu, ces bouts de béton qui sont cachés dans du rocher, des portes dérobées, des espèces de clapets, ça permettait d'ouvrir puis de faire sortir le canon. Donc ça ressemble à ça. Et puis ce qu'on voit mais qu'on ne comprend pas, c'est aussi des fausses villas, des fausses cabanes aux franches montagnes, je ne sais pas où, qui en réalité sont des fortins déguisés, c'est des faux rideaux, c'est des faux volets. Une fois que vous entrez, vous ouvrez la porte, vous n'arrivez pas à la salle à manger, vous arrivez dans un fortin ou une entrée de fortin.
C'était Jean-Marie Hotz, vice-président de la revue Intervalle. Demain, nous parlerons plus en détail des fortins d'infanterie de la région, en particulier ceux de Frainvilliers et de Sonsbourg.